Onimane Emon, merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone. Nous parlons de l'état du monde. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, oui.
Ah, très bien. Alors, dans cet épais livre qui fait 800 pages, État du monde, on a à l'œuvre une machinerie littéraire. J'aimerais que vous nous parliez de comment elle fonctionne.
C'est-à-dire l'ensemble de la machinerie ou dans ce seul volume des États du monde, vous voulez
dans
dire ?
Dans ce seul volume, s'il vous plaît.
Et écoutez, dans ce seul volume, il s'agit des grands ancêtres, en définitive, de ce qu'on appelle les grands ancêtres et les gros, dans leurs tribus différentes. Il y a d'autres volumes, si vous voulez, qui sont consacrés aux enfants, enfin, aux maigres tendres, aux maigres durs, etc., tout un tas d'autres populations. Il y a des orphelins aussi, des orphelins colporteurs qui passent par les campagnes et qui distribuent des textes. Et puis également des adolescents, la bande à Jésus et d'autres groupes. Mais pour cette œuvre-là, si vous voulez, j'ai essayé de déterminer ça par saison. C'est-à-dire, il s'agit plus de voix que de personnages en réalité, parce que je suis très lié aux voix, à la radio aussi précisément. Et donc, les voix, mais disons les personnages, pour aller vite, pour pas troubler un peu les lecteurs ou les auditeurs, ces personnages interviennent et sont présentés sur 5 saisons, en réalité, qui sont les saisons à la chinoise, c'est-à-dire au-delà du printemps, de l'été, de l'hiver, l'automne, s'ajoute la terre qui, suivant les Chinois, peut être soit fractionnée en quelque sorte entre chacune des saisons ou intervenir à la fin de l'été. Suivant les auteurs chinois, c'est l'un ou l'autre choix. Donc chacun de ces personnages intervient sur les 5 saisons. Ils n'ont pas tous les saisons. Il y a des personnages qui sont plus courts que d'autres, si je puis dire, des voix qui ne disposent qu'une ou deux saisons, et même d'une seule parfois. Mais en tout cas, on les suit en continuité. Étant donné que tout ça, c'est une composition par fragments, c'est ce que j'appelle souvent un fleuve de bois porté, vous savez. C'est des fragments successifs poétiques qui sont réunis pour faire un ensemble. Et donc, c'est un éclairage par facettes. Chacun des personnages est éclairé par facettes successives. Et donc, ici, du moins, on réussit à les suivre en continuité, alors que dans un volume précédent, qui s'appelait Quartier de Hong, j'avais pris le parti de faire la traversée de l'ensemble de la cosmologie, enfin, de la plus grande partie de la cosmologie, disons, parce que ça résume pas non plus toute la cosmologie. Et déjà que l'écriture est fragmentée, disons que c'était beaucoup plus difficile, je pense, d'opérer une traversée. Alors que là, on a les personnages, on a les grands ancêtres, on a une sorte de pré-symbolique au début, un personnage qui est un ancêtre tzigane qui s'appelle Ossip, et puis ensuite les gros, il y a Fernande qui est une énormité, il y a la grosse elle-même qui intervient, qui est, si on peut dire, la taille au-dessous de Fernande. Il y a Louis-Henri, des oncles voyageurs qui traversent cette cosmologie. Tout ça dans une énorme écriture carnavalesque en même temps. C'est-à-dire que c'est à la fois une histoire des pauvres, une Bible des pauvres, si on veut. Dans ce volume-ci, qui se concentre surtout sur le quartier de Saint-Michel à Bordeaux, qui est un quartier important, et un autre qui est celui de Saint-Augustin, mais disons, c'est assez centré sur la vie de Bordeaux, mais également pour le personnage de Don Quixote Domingo, qui fait partie de la tribu espagnole, ça se lance, disons, dans les lignes de fuite du côté de Cuba, du côté de l'Amérique du Sud, du côté de Buenos Aires. Mais disons que l'essentiel est autour de Saint-Michel. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'unité et de vision par facette de chacun de ces personnages, d'écoute de ces voix, si on veut dire.
Donc, dans État du monde, Onimane Emon, il y a un dispositif propre à ce livre dans l'ensemble qui est la cosmologie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette cosmologie qui est cet énorme travail en progrès constant ?
Oui. Alors, si vous voulez, cette cosmologie, elle est née dans les années 60 et même avant. À l'origine, c'était tout simplement un travail autour d'un frère disparu, donc c'était une écriture à deux mains. Tout ça, ça s'est entassé dans un coffre qui était le coffre d'un ancêtre qui est allé à Cuba, précisément. Et puis, c'est un peu comme le corps d'Osiris, si vous voulez, ça n'a jamais été révélé, c'est-à-dire que j'ai fait partie aussi d'autres revues d'écriture d'avant-garde et autres, expositions, enfin, toute écoute des grandes têtes molles de l'époque. Et donc, toute cette énormité, tout ce cet entassement n'était jamais publié. C'était tout à fait autre chose qui était publié, écrit, montré, exposé, etc. Et en 84, voilà, un renversement de la date de naissance tout simplement, et puis d'autres phénomènes dramatiques ont fait que tout d'un coup j'ai réouvert ce coffre. Et il se trouve qu'il y avait très peu de personnes qui étaient au courant de ça. C'était vraiment des intimes ou des gens comme Truta à la radio, vous voyez, deux ou trois artistes qui étaient au courant, mais très peu de ce travail. Je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais publié jusqu'alors, que toute cette écriture dites d'avant-garde, en tout cas celle-là n'était pas la mienne, hein, même si les gens avec lesquels j'ai travaillé étaient tout à fait sincères et intéressants, et j'ai décidé de mettre à jour ça. Alors l'idée c'était d'abord de manifester ça d'un seul mouvement, comme Moby Dick, non pas le livre, j'aurais pas cette prétention, mais comme la baleine elle-même, vous voyez, un ressurgissement énorme, un volume, une énormité, qui apparaît, qui disparaît tout d'un coup. L'idée c'était de le donner à ceux qui peuvent le rendre meilleur, qui puisse rendre cette œuvre meilleure. La citation est de Brecht, si vous voulez. Il y en a une autre, c'est celle écrivain, c'est d'Achille Hamet, je crois, hein, qui disait « Les choses appartiennent à ceux qui les désirent les plus forts », mais comme je pense que c'est quand même une définition assez ambiguë, disons que je préfère celle de Brecht. Et donc je voulais donner ça, j'ai pas eu les moyens malheureusement d'un Roussel pour auto-éditer ça et pour le donner aux amis. Et donc, je suis passé par plusieurs éditeurs. J'ai d'abord mis au point la maison d'édition Tristram en 86, en partie pour pouvoir publier ce genre de singularité et d'autres, heureusement. Et puis ensuite, il y a eu des éditions au Seuil chez Gallimard également. Et puis là, avec Maitré, où là, c'est vraiment parfait, parce que si vous voulez, d'abord Didier Morin, responsable de Maitré, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et donc, en plus, il y a une bande, si vous voulez, un mouvement, si vous voulez, dans mes traits. Et j'ai pu réaliser exactement ce que je voulais, concevoir la maquette jusqu'au bout et présenter cette partie de la cosmologie vraiment plastiquement aussi, comme je l'entendais. Et puis, en plus de ça, il y a une dynamique. Il y a des gens comme Plossu qui fait le lien avec la Beat Generation. Il y a des gens comme Gandrieux, enfin, vous voyez, il y a des... Et puis, malheureusement, Jean-Pierre Bertrand est disparu, qui a soutenu une exposition de la cosmologie. Donc, ça a trouvé vraiment son lieu et sa place au bon moment. Mais excusez-moi, parce que je suis très bavard hein, quand on me lance.
Et c'est un plaisir de vous écouter. Alors, ce livre-là, État du monde, il commence donc par...
Allô ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui,
si je parle plus fort.
Un peu loin, mais
voilà, je vais parler plus fort. Il commence État du monde par un grand ancêtre qui s'appelle Ossip. Avec Ossip, nous traversons l'époque soviétique, nous traversons la Russie, il y a des souvenirs de Staline. Et puis il y a un deuxième ancêtre dont vous avez parlé, Donki Domingo Domek. Oui. À travers lui, nous avons une partie de l'histoire de l'Espagne, nous avons la guerre civile, nous avons aussi la conquête par Christophe Colomb, très belles pages. Et là, juste en lisant, ça fait à peu près là, on va dire 150 pages du début, avec Ossip et avec Donki Domingo Domek, on assiste à une manière de procéder pour prendre l'histoire par plein de bouts d'anecdotes et en faire un récit avec un personnage imaginé, donc là Ossip et Donki, et les incruster dans l'histoire exacte et de rendre ce récit-là en faisant, on va dire, jaillir la fiction et puis surtout faire un peu délirer la langue et le personnage.
Oui. Oui. Alors, si vous voulez, Ossip, effectivement, c'est une sorte de Tsigan lointain. Il se trouve, par hasard, mêlé à la fin du tsar, même à son assassinat. Il est des chauffeurs, malheureusement, de ceux qui vont l'exterminer. Il traverse ensuite, il y a une sorte de rencontre, si vous voulez, avec, comment s'appelle-t-il, bon sang, tout d'un coup son nom m'échappe, il y a bien sûr la rencontre avec Staline, mais il y a surtout, si vous voulez, la rencontre avec, bon sang, le poète de Varikino, Jivago, voilà, enfin Jivago le personnage, mais surtout avec son auteur, si vous voulez. Donc il y a cette traversée mythique. De l'autre côté, c'est la conquête de Christophe Colomb, mais c'est surtout le fait de placer, si vous voulez, des personnages et des ancêtres, les porter aussi loin que possible, parce qu'évidemment ça part d'une écriture biographique, mais c'est une biographie dans un sens très général et très éclaté, très carnavalesque. Dans un sens aussi, c'est une écriture très proche disons, de la lecture d'un lecteur d'Amérique du Sud. On est proche quand même de ce code baroque-là un peu. Il y a des emprunts, notamment à José Lezama Lima, à Paradiso, entre autres. Et puis, la Grosse, le personnage de La Grosse, est proche de Magdalena, qui elle-même est une sorte de réincarnation de la baleine de Moby Dick dans le roman de Cabrera Infante qui s'appelle Trois tristes tigres, vous voyez. Donc l'idée, c'est de porter, de ne pas rester dans l'anecdote, parce qu'on part de souffrance et de même d'aspects assez tragiques, mélodramatiques, volontairement mélodramatiques du reste, dans le quartier Saint-Michel ou ailleurs, et cela, et j'essaie de le porter le plus loin possible, si vous voulez, hein, par l'enflure carnavalesque, par une sorte de parodie à un moment donné. Je ne sais pas si c'est la parodie du paradis, mais en tout cas, la parodie du paradis, ça serait plutôt l'enfer. Mais disons, par une sorte de répétition aussi, répétition en farce. C'est-à-dire que dans la cosmologie, et là notamment, à un moment donné, il y a une sorte de célébration de la révolution qui se fait avec des stands sur la foire, que j'avais publié aussi ailleurs. Sur une foire qui se tient à Bordeaux, et on rejoue la révolution comme on rejoue à un moment donné du côté du nord de l'Espagne, si vous voulez, la découverte de Christophe Colomb avec des moines très sautants et sous une forme complètement carnavalesque, quoi. C'est-à-dire 1992 rejouant, si vous voulez, 1492, mais d'une façon parodique. Voilà.
Et puis on revient en France, avec toute la deuxième moitié de l'État du monde, avec ce quartier de Bordeaux, par La Grosse et tout son entourage. Et là, on est dans la vie d'un quartier, mais on a l'impression, en lisant La Grosse et toute cette ribambelle de personnages autour, qu'on est dans une épopée nationale.
Oui, il y a sans doute ça. Et en tout cas, c'est une épopée. Oui, ça se veut une épopée. Les personnages, si vous voulez, je vous dis, je préfère les voix, parce que je suis très sensible aux voix, à la radio en particulier, parce que j'ai fait pas mal de radio, et même une des idées au moment de Tristram, c'était de... Puisque ça se présente sous la forme traditionnelle d'un voyage au pays des morts, j'avais pensé au film de Cocteau, si vous voulez, Orphée, où à un moment donné, il reçoit des messages du pays des morts, comme on recevait autrefois Radio Londres. Et on avait pensé, à un moment donné, c'était au moment où les voitures étaient équipées des premiers lecteurs de CD, qu'on puisse éditer ça sous forme d'un CD, et que les gens puissent traverser le paysage, en quelque sorte, en écoutant les voix du pays des morts. Et une autre idée, c'était de faire un feuilleton, j'en avais parlé à un moment donné avec Trutin, un feuilleton radiophonique, si vous voulez, de la cosmologie. Parce que cette fragmentation de l'écriture aussi, elle passe beaucoup mieux avec la voix. Dans un ouvrage précédent, j'avais inséré un CD où je lisais moi-même quelques passages pour voir quel était l'emportement justement de ce fleuve, vous voyez, de bois flottant. Comment est-ce que les fragments s'emportent les uns avec les autres et trouvent un lien? Comment on peut faire un lien, un ensemble et un fleuve de tous ces fragments juxtaposés? Voilà. Parce que il y a dans l'écriture, c'est une épopée, c'est un principe poétique aussi de surgissement, d'inachèvement, vous voyez, de l'écriture. C'est-à-dire, je ne veux pas, en quelque sorte, continuer. C'est des incipites, c'est des amorces, c'est des mises à feu qui sont mises les unes à côté des autres. Il faut qu'il y ait toujours ce jaillissement. C'est un peu ce que je retrouve plastiquement aussi parfois dans l'aquarelle ou dans des choses comme ça. Hein. C'est un peu, si vous voulez, comme le traité de Cosenz au XVIIIe siècle, où il avait essayé de faire un traité du paysage où on partait de tâches, c'est-à-dire de choses très vives. Et on faisait ensuite un paysage traditionnel, mais ce qui était intéressant, c'était l'idée du surgissement, quoi. Voilà, l'ébauche, l'esquisse, l'emportement, la mise à feu. Voilà, ça, c'est des termes que j'utilise très fréquemment. Mais en tout cas, il y a une épopée, effectivement. Il y a une épopée, il y a un passage sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Première. C'est inscrit aussi, vraiment. Et c'est la vie du quartier, absolument. Et c'est pour ça que le fait que Plossu ait fait un reportage photographique sur ce quartier, qui fait partie aussi du travail, quoi, c'est tout à fait étonnant, quoi.
Et ce système, que ce soit des voix plutôt que des personnages, et vous avez très tout à fait raison, enfin, dès les premières pages, ça saute à l'oreille, nous avons affaire à des voix et donc à une pluralité de voix, fait que cette fiction n'est jamais fermée. J'ai envie de parler à votre sujet de fiction ouverte. Ce n'est jamais terminé, ce n'est jamais clos.
Oui, absolument. Absolument. Ça n'est jamais clos. Au début, si vous voulez, c'était comme un fétiche. C'était dans un coffre à Cuba. Alors tout le monde m'a fait l'astuce de Pessoa, etc. Je ne savais même pas que Pessoa avait mis ses œuvres dans un coffre. Et mon travail sur l'anonyme a vraiment rien à voir avec les hétéronymes. Mais en tout cas, si vous voulez, oui, c'est ouvert. C'est-à-dire, il y a la volonté justement de laisser ça ouvert dans un emportement. Qu'il n'y ait pas de clôture, quoi. Et la conception elle-même, c'est parce que je parle effectivement beaucoup et sans doute beaucoup trop, mais en même temps, j'oublie toujours des choses très importantes sur la composition. La composition, c'est faite, si vous voulez, comme une carte. C'est plus il y a de l'histoire, bien sûr, mais j'y tiens beaucoup, et il y a aussi des références populaires, des références à des ouvrages, des historia ou des choses comme ça, chez les gros, par exemple, qui faisaient partie de leur lecture, vous voyez, ou par Dayan, ou Zévaco, ou Lupin, ou enfin les lectures que ces gens-là avaient. Donc il y a des références à ça, qui ne se veulent pas du tout des références savantes, hein, même si tout ça est quand même très, très, très élaboré. Et il y a volontairement une lecture populaire immédiate, Mais donc, je vous disais, je n'ai pas conçu ça comme, par exemple, je vais écrire, vous voyez, l'histoire de... des grands ancêtres, puis des gros, puis de Fernande, puis etc. Non, tout ça a toujours été conçu comme une carte, ça s'est déployé au fur et à mesure. Et il y a même des choses qui ont surgi à un moment donné, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle venait faire là. Un jour, il y a un texte sur une hémorragie, comme ça, une hémorragie, quelqu'un qui perd son sang dans une pièce, une chose assez terrible. Et puis, je ne savais pas où ça venait, je pensais que c'était quelque chose tout à fait extérieur, et tout d'un coup, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une place, c'est comme un puzzle, vous voyez, ça s'assemble au fur et à mesure, c'est très cartographique, et je connais personne qui ait construit, en tout cas, ou c'est simplement un manque de connaissances de ma part, mais en tout cas, je ne connais pas d'auteur qui ait construit comme ça une sorte de cosmologie avec différents personnages, en procédant par nappe de cette façon. Vous voyez, ça c'est quand également là vous voyez toute la partie, disons, qui se présente comme une épopée, mais il y a toute la partie strictement poétique. Quand on parle par exemple de Fernande, qui est cette énormité plus grosse que la grosse, qui était une sorte de mère nourricière de toute une famille de 13 enfants dans cette histoire-là. Il y a un poème à un moment donné, dans les années 60, qui est écrit sur Fernande et qui est en quelque sorte un complément de ça, de telle sorte qu'il faudrait tout lire. Vous voyez, c'est un peu comme les Confessions de Saint-Augustin. Il réclamait qu'on puisse passer une vie à lire ses confessions comme lui-même aurait passé sa vie à les écrire. Eh bien, il y a un peu ça. C'est comme si je cherchais un lecteur idéal, si vous voulez, qui puisse complètement se plonger là-dedans et voir tous les liens et toutes les intrications. Alors, peut-être que c'est aussi, ça pourrait être, sous la forme d'un CD-ROM, ça pourrait être aussi sous la forme de, sous la lecture, l'informatique ou un site ou une chose comme ça permet aussi peut-être ce genre de lecture-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un me disait que dans le fond, c'était le cerveau du lecteur, dans le fond, qui pouvait engranger tout ça, quoi. Voilà.
Avez-vous pensé à fabriquer des schémas et alors l'utilisation et alors des cartes également à insérer dans le texte afin d'y mettre des éléments de repère? En même temps, c'est très agréable aussi de pouvoir soi-même se faire ses propres cartes et ses propres schémas. C'est ce que le lecteur se fait aussi, non pas parce qu'il a un défaut de repérage, mais c'est pour remettre en chronologie les personnages, puisque vie, mort sont mélangés ensemble, c'est-à-dire que la mort, c'est pas ce qui arrive à la fin, la mort peut arriver très rapidement et après raconter la vie de la personne.
Oui, bien sûr. Oui. La facilité du voyage au pays des morts aussi, c'est que ça permet effectivement beaucoup de fantaisie, si vous voulez, comme dans les films de Raoul Ruiz. C'est à la fois le pays des morts et le pays des rêves, quoi, voyez. Donc, mais les rêves, oui, l'Hadès traditionnel, c'est pas. Il y a pas grand-chose de morbide là-dedans, quoi. C'est très mythologique, hein. Les dieux sont parmi nous, quoi. C'est cette idée-là aussi. Mais pour les cartes, oui, j'ai justement fait des cartes, et on avait publié, avant cet ouvrage-là, on a publié un appendice, je pensais un peu à l'appendice Compson de Faulkner, et on a fabriqué avec Maitré, avec Didier Morin, un appendice comme ça, où il y a toute la liste des personnages et un peu leur leur vie, leurs activités, etc. Vous voyez, on a présenté ça. Quant à des cartes, oui, j'en ai fait à un moment donné, mais effectivement, on aurait pu faire ça aussi. On aurait pu éditer les cartes qui se sont modifiées au fur et à mesure. Hein. Il y a eu plusieurs cartes. Alors, sur le site de la cosmologie, j'en ai édité quelques-unes qui sont en quelque sorte des états un peu comme Pausanias, si vous voulez, qui découvrait le monde. Là, j'ai fait différentes cartes qui se modifiaient alors même que l'univers lui-même se modifiait, vous voyez.